ميدي 1 كريمة ماتان فامي.
Et à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, qui est une journée consacrée à l'éducation et à la sensibilisation du public envers la santé mentale contre la stigmatisation, célébrée donc le 10 octobre, elle a été célébrée pour la première fois en 1992. L'occasion pour nous de parler aujourd'hui du burn-out. Coach Imenj Bilot, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
Merci Kalima de l'invitation. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, surtout pour une journée de sensibilisation, comme vous l'avez si bien dit, parce que la Journée mondiale de la santé mentale est surtout l'occasion de sensibiliser et d'encourager les auditeurs, mais les personnes en général, à être à l'affût en fait des alertes pour se remettre en cause, pour se protéger et pour aller de l'avant.
Exactement, Imenj Bilot, alors on en parle de plus en plus, c'est un sujet qui, soyons honnêtes, on en a parlé même en off, a été parfois même surmédiatisé, mais j'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui est non seulement d'actualité, mais intemporel. Le burn-out. Avant de rentrer dans le détail, coach Imenj, est question de contextualiser notre échange. Que veut-on dire quand on parle de burn-out ?
Alors, vous avez eu raison de parler de la surmédicalisation de ce terme. C'est vrai que nous avons certainement eu l'occasion d'écouter une émission qui en parle, un article qui traite de la question. Mais aujourd'hui, je veux dire, d'après mon expérience, mais aussi dans mon entourage, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui appellent burn-out tout et n'importe quoi. Donc, comme vous le dites si bien, il est toujours l'occasion et il est toujours bon et pertinent de venir rappeler ce qu'est un burn-out, justement, pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'on n'appelle pas des pathologies par le terme du burn-out ou des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus anodines aussi burn-out.
Exactement.
Donc dans une extrême ou l'autre. Mmh. Alors pour le burn-out, si on veut vraiment le définir, je voudrais d'abord qu'on le mette dans un contexte. Mmh. Vous savez, on est le fruit ou la résultante d'une éducation.
Tout à fait.
On a été éduqué de telle sorte à ce qu'on puisse matcher avec un moule un moule qui plaît, un moule qui convient à une société. Et donc, du coup, ça nous met dans une forme de vulnérabilité face à l'autre, face à un vis-à-vis, qui nous pousse en continu, mais constamment, à être à l'affût de la critique, du jugement, de ce qu'on pense de moi, de ce qu'on attend de moi.
Le regard des autres, le jugement
aussi. Exactement. Tout à fait. Donc, on est dans une situation où la pression est juste incroyable. Cette pression qu'on se met à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'oblige nous-mêmes à vivre dans cette pression, va quelquefois nous conduire à des états psychologiques limites. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va aller directement vers une souffrance. Et cette souffrance, dans le milieu professionnel, et là je tiens à l'inscrire en fait dans ce milieu-là et dans ce contexte-là, dans le milieu professionnel, va conduire à ce qu'on appelle un burn-out. Donc un burn-out, si on veut le définir, je veux dire de manière simple et résumée, on pourrait dire que c'est un état d'épuisement qui va toucher plusieurs dimensions. La dimension émotionnelle, la dimension physique, mais aussi la dimension mentale, du fait que nous avons un décalage ou une sorte d'écart qui existe entre un état idéal souhaité dans le milieu professionnel, dans notre métier, ce que nous exerçons comme métier, comme fonction. Nous avons un état idéal souhaité, on voudrait qu'il ressemble à ça, où on se fait une représentation de notre métier qui a une certaine forme. Mm-hmm. Et l'état actuel constaté, c'est-à-dire qu'il y a un vrai décalage, un écart qui se situe entre les deux et qui va me pousser, moi, personne concernée par le burn-out, à me désengager, à être mal dans ma peau, à avoir du mal à être motivée, à avoir du mal... Pardon ?
À subir aussi au quotidien.
À subir, exactement. Là, on y arrive. Là, le fait de subir, c'est vraiment l'une des conséquences principales du burn-out. Accepter de subir les choses. Mmh. Donc, il y a ce rapport qu'on a à cet écart qui va faire que nous allons le vivre de manière douloureuse. Et c'est exactement cela qu'on appellerait burn-out.
Donc ce sont généralement des symptômes en quelque sorte qui sont liés à notre carrière professionnelle, à un mécontentement aussi interne peut-être, comment on perçoit, comme vous venez si bien de le dire, notre métier et comment ça se déroule dans la réalité. Et comment, selon vous, est-ce qu'on devrait en parler dans notre milieu professionnel quand on ressent cet épuisement physique et émotionnel? Est-ce qu'on devrait en parler? Si c'est le cas, à qui, vers qui on devrait justement se tourner?
Alors oui, c'est courageux de penser directement que lors d'un burn-out, nous avons la force et le courage de pouvoir aller en parler et discuter clairement de nos attentes. Vous savez, le burn-out est souvent accompagné d'une forme de confusion. C'est-à-dire que quand je me sens mal, quand je n'ai plus la force de sortir du lit le matin pour aller au travail, je suis dans un état mental et un état psychique qui fait que je n'ai pas forcément envie de discuter, de rencontrer des personnes. Je suis repliée sur moi-même et j'évite au maximum d'être confrontée à l'autre parce que je n'ai pas la force, le courage, mais aussi les mots. C'est-à-dire que la vision n'est pas tout à fait claire pour la personne. Donc avant d'aller s'adresser à qui que ce soit au niveau de son cadre professionnel, que ce soit un supérieur hiérarchique, un responsable des ressources humaines ou peut-être un psychologue au niveau, parce que dans certaines entreprises, dans certaines entités, on prévoit ce genre de choses. Avant de faire tout cela, il faudrait d'abord que je puisse moi-même comprendre ce qui se passe en moi. C'est-à-dire que d'abord noter et savoir si c'est un burn-out réellement ou si c'est une dépression, par exemple. Vous savez qu'on va confondre souvent les deux. Et je tiens je vais essayer de vulgariser un peu et essayer de faire un distinguo d'une manière très très simple et assez facile à cerner. C'est que le burn-out va se limiter au milieu professionnel. C'est-à-dire que quand je souffre de burn-out, je peux encore profiter de ma vie sociale, de ma famille, des moments que je passe avec mon entourage proche dans mon cadre personnel ou privé, ma sphère privée. Par contre, la dépression, c'est quelque chose d'assez général, c'est-à-dire qu'elle va toucher certes le milieu professionnel, mais elle va déteindre aussi sur toutes les sphères qui sont autour.
D'accord.
Donc déjà, il faudrait que je sache de quoi il s'agit. S'agit réellement d'un burn-out? Est-ce qu'il s'agit d'une dépression? Auquel cas, il faudrait que je me questionne, que je sache, voilà, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à cette situation? Pourquoi est-ce que je n'arrive plus? Pourquoi est-ce que je suis épuisée? Parce qu'en termes de symptômes, je veux dire, la liste est longue. On a une tristesse, on a des choses plus physiques du genre maux de tête, tension musculaire. On a énormément de symptômes qui viennent indiquer qu'il s'agit là d'un burn-out. Quand on les a observés, on doit se dire « Attends, mais qu'est-ce que j'attends réellement de ce métier ? Est-ce que je lui trouve le sens que je lui voulais au départ ? Est-ce que ça coïncide avec mes attentes ? Si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est subjectif ou est-ce que c'est objectif ? Parce que souvent, ça vient d'un rapport subjectif à cet écart dont on a parlé au départ. Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose à soi. Donc le dialogue, il est plutôt interne avant de s'adresser à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire au niveau de son travail, au niveau de l'organisme qui nous accueille. Et peut-être après s'adresser ça dépend de la sévérité du burn-out, mais s'adresser aussi à le personnel, je veux dire soignant, le personnel, c'est-à-dire aller vers la psychothérapie si le burn-out s'avère réellement sévère. Si c'est présent. Et à ce moment-là, quand on a pu mettre à plat en fait nos attentes, ce que nous vivons, d'où ça vient, les causes et quelque part les conséquences, ce n'est qu'à ce moment-là que je peux en parler autour de moi au niveau de mon travail.
Donc il faut tout d'abord faire une sorte d'introspection et d'essayer de comprendre soi-même ce qui se passe. Avant justement d'aller en parler à notre entourage. Et selon vous, est-ce qu'il y a une façon de s'en sortir justement de ce burn-out et quelle est la meilleure façon de le faire? Parce que des fois, si on est vraiment sous pression, on risque peut-être éventuellement de prendre une mauvaise décision, par exemple de démissionner sur un coup de tête ou alors que voilà, c'est peut-être juste une phase qui va passer. Est-ce que selon vous, il y a un moyen justement de dépasser ce burn-out et de retrouver plaisir dans ce qu'on exerce comme profession?
Bien sûr que le burn-out n'est pas une fatalité. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a eu un burn-out à un certain moment de notre vie que cette mission, cette fonction, ce métier ne nous convient plus du tout, dans l'absolu. Pas du tout. Ça peut venir de plusieurs. Je veux dire, le burn-out pourrait avoir beaucoup de causes, énormément de causes, qui ne sont pas forcément liées au sens même ou à la nature même du métier. Ça peut être juste lié à, par exemple, il y a des personnes, je ne sais pas, dans votre entourage, peut-être que vous en connaissez, des personnes qui se trouvent être en relation avec deux supérieurs hiérarchiques, avec des consignes contradictoires dans certains moments. Donc, ne serait-ce que cela, ça pourrait conduire à un burn-out. Les délais courts aussi, c'est-à-dire si on me donne toujours des tâches à effectuer, mais avec des délais hyper courts. J'ai l'impression de ne pas pouvoir, atteindre mes objectifs à temps. Donc, je suis tout le temps en train de courir, je pousse mes limites au maximum. Donc, ce n'est que ça. Je veux dire, ça n'a pas, si vous le remarquez bien, ça n'a pas une relation directe à la nature même du métier.
C'est vrai.
Ça a une relation avec la façon avec laquelle nous abordons notre tâche ou notre mission ou notre fonction. Donc, dans ces cas-là, il y a des ajustements à faire. Et ces ajustements, pardon, sont capables et sont, suffisants pour nous faire retrouver goût à notre travail, retrouver goût à notre mission, sans pour autant avoir eu à passer par la case démission ou par la case
l'extrême
rupture ou par tout à fait. Donc moi, vous avez dit qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là. J'attire votre attention d'abord et l'attention des auditeurs sur le piège qu'il faut éviter. Quand on a la sensation d'être ou de vivre un burn-out, le piège qu'il faut à tout prix éviter avant de parler de ce qu'on devrait faire, c'est de ne pas se dire écoute, ça va passer. Ou de tourner autour de soi et de voir autour et dire ouais bon lui il vit pire que ça, il se plaint pas donc il faut arrêter de se plaindre, on m'a toujours dit que je me plaignais trop. Donc là, ce sont des messages que nous nous imposons, qui ont pour essence et pour finalité de nous pousser à nous suradapter, donc à empirer la situation
et à subir davantage.
Exact. Donc je me suradapte, j'arrive à un moment où ça devient juste insurmontable, où je suis arrivée à l'épuisement total de toutes mes capacités, toutes mes forces, toute mon énergie.
Toutes mes ressources.
À ce moment-là, le burn-out peut aller jusqu'à la dépression, peut aller jusqu'à un niveau de sévérité qui va rendre le traitement, rendre la remise sur pied beaucoup plus difficile qu'elle n'aurait pu l'être au départ. Ok, donc ça c'est vraiment le piège. Mais quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir, si on a été réellement dans l'observation de soi, à l'écoute de soi, parce que c'est ça en fait la clé. La clé, c'est de toujours s'écouter intérieurement, ne pas laisser en fait son entourage, son environnement, décider de ce qu'on devrait faire ou de ce qu'on ne devrait pas faire.
Tout à fait.
Donc, être à l'écoute de soi va nous pousser à sentir quand le mal-être ou le malaise démarre. Et à ce moment-là, se dire, attends, il faut que je retrouve mon énergie. Parce que le premier symptôme, c'est une baisse d'énergie, on est bien d'accord.
Tout à fait.
Donc, comment est-ce que je pourrais retrouver cette énergie? Il y a plusieurs moyens. Il y a de la respiration, il y a de la méditation, il y a certaines personnes disent oui, mais bon, ce sont des solutions qu'on nous propose comme ça à l'appel, mais ça peut avoir réellement un impact
sur
la recharge d'énergie.
Bien sûr, surtout la respiration, c'est très très efficace. Finalement, on n'y pense pas, mais quand on prend un petit moment, comme vous venez de le dire, de se concentrer sur soi et de respirer correctement, finalement, ça nous aide beaucoup. Ça atténue quand même un petit peu cette sensation d'angoisse extrême ou de stress que provoque justement le burn-out.
Alors, Kalima, si juste pour vous dire, là, le fait de respirer, parce qu'on respire tous forcément, parce
bien
qu'on
sûr.
Est toujours en vie, mais on n'a pas cette conscience de la respiration. Et cette conscience de la respiration, si elle a une mission, si elle a une finalité, un objectif, c'est bien de nous reconnecter à qui nous sommes. Et cette reconnexion, elle est très très importante. Le fait de ne pas être dans la conscience de sa respiration nous fait carrément vivre loin de qui nous sommes. Donc, rien qu'un moment, réserver quelques minutes pour se concentrer sur sa respiration va nous pousser à être plus dans la conscience de nos capacités, de nos limites, de notre corps, de ce qu'on, de tout aussi tout ce qui est positif autour de soi. Mmh. Cette conscience est intéressante aussi. Et rien que cela pourrait rétablir un petit peu quand même l'état mental et l'état psychique que nous vivons.
Exactement.
À ce moment-là. Donc, commencez par ça. Vous avez dit tout à l'heure à qui je devrais m'adresser si je suis dans une situation de burn-out. Ben, déjà, peut-être aller chercher les personnes qui nous nourrissent, les personnes qui nous ressourcent. Il y a forcément autour de nous une ou deux personnes avec lesquelles nous nous sentons très très bien, mm-hmm. qui ont cette capacité de nous dynamiser. Hein. J'utilise un terme un peu... Mais dynamiser dans le sens où j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie quand
recharger nos batteries.
Exact. Voilà. Alors, ça peut être une maman, ça peut être un ami, ça peut être un enfant, son propre enfant, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être même un commerçant du coin, mais que j'ai l'habitude, avec lequel j'ai l'habitude
d'échanger. De papoter un petit peu.
Mmh. Qui est peut-être drôle ou sage. Et donc, du coup, ça va venir me recharger mes batteries. Reconnaître ces personnes, les repérer dans son entourage pour pouvoir aller puiser auprès d'eux toute énergie nécessaire et tout ce bien-être dont on manque dans un cas de burn-out. Donc, surtout, cette étape ou cette deuxième, recommandation, proposition que je viens de faire, va nous permettre aussi de sortir du mode passif, c'est-à-dire que je vais vers l'autre et que je cherche à puiser chez lui quelque chose. Donc, je suis purement dans l'action. Et ça, c'est nécessaire, parce que quand on est dans une situation de burn-out, oui, il y a l'épuisement, mais il y a aussi le mode passif qui se déclenche. Mmh. Je subis, je deviens celle ou celui qui attend, qui ne fait rien. Donc, déclencher, avoir ce souci de déclencher une dynamique, de déclencher un mode actif, c'est nécessaire et indispensable.
Exactement. Ben, merci beaucoup, Imen Jbilo, pour cet échange. C'était vraiment un plaisir de rapprocher justement nos auditeurs et auditrices du burn-out et surtout, rappelons-le, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale. C'était vraiment encore une fois un plaisir et on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau sujet. Merci beaucoup, Imen.
Inch'Allah, avec grand plaisir. Au revoir.
Au revoir.